Quelle joie d'être serviteur et servant du Seigneur. Quelle joie de pouvoir vivre des moments précieux comme celui-ci, alors que nous voyons dans le monde tellement de souffrances, tellement de haine qui se déchaîne ici et là. Et que nous, ici, ensemble, dans ce lieu, nous pouvons vivre des moments de joie, de réjouissance, d'encouragement, de guérison, de pouvoir dire merci, comme a dit notre sœur dans sa prière tout à l'heure. Merci, merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans le quotidien de notre vie. Je pense que personne d'entre nous ici ne peut dire que Dieu ne leur a jamais répondu. Ou alors, c'est qu'il faut qu'ils aient des appareils comme moi pour voyager entre eux. Mais Dieu agit et œuvre dans nos vies pour pouvoir réaliser non pas des plans humains, mais ses plans à lui. Et il choisit les uns et les autres comme il entend. Et cela pour honorer son nom et glorifier son nom sur cette terre. Nous sommes les uns et les autres, frères et sœurs, au bénéfice du salut accordé à tous ces chants que nous avons entonnés ce matin. Tous ces chants qui sont là nous rappellent que nous sommes les rachetés de l'Éternel. Nous sommes les rachetés. Et il nous a donné une existence, une nouvelle vie. On entend aujourd'hui beaucoup de choses, et aujourd'hui c'est un jour particulier pour nous, pour la France, ne l'oublions pas, que beaucoup de choses peuvent se décider et se réaliser parce que nous avons aussi, nous, fait un choix. Mais je ne veux pas faire de la politique, je vais faire simplement partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. On va prendre dans les pieds 1er épître aux Corinthiens quelques versets qui m'ont rappelé à moi et vont vous rappeler à vous aussi ce que nous sommes. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, à partir du verset... Je suis dans le deuxième épître. Non, c'est pas bon, ça. On va y arriver. La Bible commence à épuiser les pages un peu... C'est vrai que j'ai regardé l'autre jour sur cette Bible quelle était la date où je l'avais eue. Le 29 avril 1987. Ça fait 30 ans. On aime bien les vieilles choses. C'est vrai que la Bible, c'est une vieille chose, mais qui n'a jamais changé et qui n'a pas été transformée. Qu'on a essayé pourtant de transformer. Mais elle est toujours la même. C'est la parole de Dieu que nous avons et que nous voulons encore ce matin lire et partager. Donc, chapitre 1, à partir du verset 26. Vous allez vous y reconnaître. Considérez, frères, que parmi vous et sœurs qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Dieu a choisi des choses qui semblent indignes pour l'annoncer, lui. Il n'a pas été cherché parmi les rois, parmi les sages, parmi les puissants. ceux qui appelaient à annoncer la bonne nouvelle. Oh, il y a des sages, il y a des intelligents dans l'Écriture. Quand on regarde le roi Salomon, mais quand, si on regarde sa fin, il n'a pas persévéré jusqu'au bout. Dieu nous demande de persévérer jusqu'à la fin. Quand je regarde cette date du 29 avril 87, où j'ai eu cette Bible en main, après celle que j'avais eue auparavant, et que j'aime encore, et qui a été rapiécée, réparée, non, la couverture, mais pas les pages. Je vois là combien Dieu a été fidèle pour moi durant toutes ces années. On a vécu des expériences fortes. On a vécu des choses qui nous ont dépassés, qui nous ont surpris, qui nous ont étonnés. Heureusement, Dieu est toujours celui qui nous étonne. Et qui fait que dans le quotidien de notre vie, année après année, jour après jour, nous voyons la main de Dieu agir, indépendamment de notre puissance et de notre force. On peut avoir des projets, mais c'est les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. On peut avoir des pensées, des idées, mais c'est ce que Dieu veut qui se fait. Si nous voulons rester soumis à lui, si nous n'exerçons pas la révolte, comme le peuple d'Israël dans le désert, sauvé, libéré, sorti d'Égypte, et dès les premiers pas, ça y est, on est mécontent. Ne soyons pas mécontents de notre sort. Parce que Paul a dit à Timothée une chose importante, la piété avec la foi est une grande source de gain. La piété, avec contentement, avec satisfaction, est une grande source de gain. Non pas matériel, mais dans l'ordre de notre cœur, de notre pensée, de notre façon d'agir, de réagir. Je me rappelle, au début de ma conversion, j'avais tendance à dire quelques gros mots, comme on dit. C'était dans l'habitude, vous savez. Je me rappelle toujours d'un monsieur qui était voisin de chez nous et qui disait un juron à tous les mots. Alors un jour, on était chez eux, et Marie-Thérèse, on est allés ensemble. Et on a dit, monsieur, il s'appelle monsieur le moine en plus, vous voyez. Vous vous rendez compte de ce que vous dites là? À chaque mot, c'est un blasphème. Vous pourriez peut-être changer de langage. Vous connaissez? Et quand on venait chez lui, il faisait très attention. Mais sa tendance naturelle ressortait. Mais du jour où j'ai donné ma vie à Christ, j'avais une tendance semblable, ça a été fini. Pas un mot de ce genre. Écoutez-moi quand je parle à ce moment-là. Hein. Si vous voyez que j'ai un langage qui dévie dans le quotidien de ma vie ou autre, vous me dites, attention, qu'est-ce que tu as dit l'autre jour? Mais Dieu a veillé sur ma langue et a permis que je ne dise plus ces choses qui étaient blasphèmes, qui étaient en horreur à l'Éternel. Notre langue, notre bouche doit exercer et manifester puissamment cette puissance nouvelle mise en nous. Quand on parle des choses viles, des choses folles, de ceux qui sont, comme on peut dire, on dirait pour certains qui sont si hauts et qui ont la tête dans les nuages, mais la langue qui traîne par terre, qui considèrent certaines personnes comme étant rien du tout, mais dans lequel Dieu va agir puissamment et faire que les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles sont là. Qui Jésus a-t-il choisi pour apôtre? Qui est-il allé chercher? Est-ce les rois, les ministres, les religieux haut placés? Non, il a choisi des pécheurs. Il a choisi Pierre, il a choisi Jean, Jacques. Il a choisi un collecteur d'impôts qui était là. Il a choisi des hommes simples, de la vie simple, des illettrés, des illettrés, des gens qui n'avaient aucune connaissance. Et pourtant, ce sont ceux-là qu'il est allé chercher, parce qu'ils avaient un cœur désireux d'être changés. Oh, Jean, c'était le fils du tonnerre avec son frère, prêt à foudroyer les uns et les autres. Pierre était impétueux comme tout, mais un peu lâche par moments, quand il a renié Jésus. Mais c'était des hommes choisis par Dieu pour servir et honorer son nom. Nous sommes de ceux-là. On n'a pas à s'enorgueillir de notre position sociale. Elle n'importe peu aujourd'hui. Ce qui importe, c'est notre cœur donné à Christ et abandonné à lui pour le servir et l'honorer et le rendre finalement visible à travers nous. Je dis souvent, le témoignage, c'est important. Témoigner, le un pour un. Annoncer la bonne nouvelle. Avec amour et non pas avec violence. Celui qui nous change, c'est lui. Pierre était ce roc inébranlable, cette pierre, quand il a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Il est celui qui a ouvert la porte aux Juifs et aux païens. Il a les clés. Simplement par sa parole, par les choses qu'il a pu dire, des hommes et des femmes se sont convertis. On aimerait voir ces choses aujourd'hui, des mouvements de foule. Oh oui, mais la foule souvent, elle est versatile. Elle dit oui et amène un jour et le lendemain tue, crucifie. Mais qu'on prenne quelqu'un, qu'on puisse lui annoncer l'évangile. Avec notre faiblesse, avec nos manquements, notre fragilité, et lui montrer comment Dieu nous a changés et transformés. C'est gagné. Ou alors celui qui est aussi entêté, que voulez-vous qu'on en fasse? Jean était le disciple que Jésus aimait. C'est celui qui a couru le plus vite pour aller jusqu'au tombeau et qui a vu que Jésus n'était plus là. Combien d'hommes du passé ont fait des expériences extraordinaires avec Christ. Il y a des témoignages qui sont donnés, des choses qu'ils ont encore là, que nous devons retenir pour aller, comme il faut, ils ont fait eux-mêmes, aller jusqu'au bout. Vous connaissez Spurgeon, ce revivaliste, comme disait à son époque, au XIXe siècle, ceux qui le connaissaient, celui qui revivait, redonnait de la vie à ceux qui n'en avaient plus, par sa parole. Il disait ceci, « Je préfère descendre de quelqu'un qui souffrit pour la foi qu'avoir dans mes veines le sang de tous les empereurs du monde. » Je préfère descendre de quelqu'un qui a souffert pour la foi qu'avoir dans mes veines le sang de tous les empereurs du monde. Il savait ce qu'il disait. Parce que lui, tout jeune, enfant, il était le fils d'un pasteur, il voyait toutes les choses qui se passaient, il était à l'écoute de ce qui se passait dans le bureau. Il était curieux. Et quand il voyait tous les malheurs qui pouvaient être en somme partagés, toutes les souffrances qui étaient là, dit « Je ne suis pas digne, moi, de recevoir l'Évangile. Je ne suis pas digne d'être sauvé. Je suis encore plus mauvais qu'eux, à 15 ans. » Il était en recherche, il voulait connaître vraiment, recevoir ce salut, être assuré qu'il pouvait être sauvé. Et il doutait sans arrêt, et il doutait. Peut-être parmi nous, ce matin, quelques-uns sont dans ce cas. Qu'ils doutent, qu'ils ont peur, qu'ils se disent « Je suis indigne, je suis trop mauvais dans ma pensée. » Mais Paul l'a bien dit, « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. » Il y a la lutte entre la chair et l'esprit. Nous sommes tous en combat. Si quelqu'un parmi nous dit qu'il n'a aucun combat, alors là, il est un menteur. Parce que nous avons tous des combats. Et notre chair est toujours à l'attaque. C'est elle qui donne les plus grands coups. Et nous, nous sommes ici avec nous, le bouclier de la foi. On peut encaisser. Mais on peut aussi résister. Résister et recombattre, et combattre. Et lui disait ceci, je ne suis indigne de Dieu. Je vois tous ces gens qui sont là, ils sont meilleurs que moi, parce qu'ils osent dire des choses qui sont dans leur cœur, et moi je les cache. Et puis il est allé de lieu en lieu, il allait visiter toutes sortes d'églises, il allait à 15 ans, en recherche, il cherchait. Puis un jour il arrive dans une petite église, c'était dans un hameau, il y avait la neige, il a eu le courage d'y aller, hein. Dans la neige, sur les chemins qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui, il n'y avait pas de voiture, hein, et pas de pneus anti-neige. Hein. À pied. Et là, il arrive dans ce hangar, cette grange, où les gens attendent le prédicateur qui n'y arrive pas. Aïe. Comme ce matin, par exemple, je ne suis pas là. Il y aurait eu sûrement quelqu'un d'autre qui l'aurait pris tout de suite. Hein. Parce qu'on a tous, je me rappelle toujours que ça nous est arrivé que, finalement, il fait défaut, mais dans ma Bible, j'ai souvent pas autant de notes que de pages, mais j'ai toujours des notes qui sont là, et Dieu me permet d'exprimer les choses du moment. Mais là, le prédicateur n'est pas là, et personne n'était capable, ce sont des gens simples, presque illettrés, au 19e siècle, vous savez, l'école, l'enseignement, l'instruction n'était pas très développé comme aujourd'hui. Et là, c'est un monsieur qui prend sa Bible. Bon. Et puis, il lit un texte. Il lit un texte tout simple. Il faut que je retrouve le texte. C'est dans Hébreux 45, 22. Non, pardon, dans Ésaïe 45, 22. Parce que 45 chapitres en hébreu, ce serait difficile. Hein. Ésaïe 45, 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Ça s'adressait, finalement, non pas aux Juifs, mais à tous ceux qui habitent sur la terre. Ésaïe, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui habitez à l'extrémité de la terre. Tournez-vous vers moi. Simplement, ce verset, c'est quelques mots. Alors il s'adresse à, il voit cet étranger, ce jeune étranger qui est là, aspurgeant dans la salle, qui est là, et il dit, « Oh, jeune homme, tu as l'air bien triste. Tu as l'air bien malheureux. Tu seras toujours malheureux. Dans la vie, dans la mort, si tu ne te tournes pas vers ce texte, si tu ne le mets pas dans ton cœur. Simplement, des mots simples. Ça l'a frappé. Il se tournait plutôt vers les hommes qui annonçaient Christ que vers Christ lui-même. Tournez-vous vers lui et vous serez sauvés. Tournez-vous vers lui. Ne lui tournez pas le dos, ne regardez pas d'un autre côté. Regardez vers lui et le salut sera dans votre cœur. Des mots simples. Et cela se réalisa, bouleversé. Il rentre chez lui, il s'enferme dans sa chambre. Pendant 2 heures, il est dans un état second. Christ est entré dans sa vie parce qu'il a dit oui. Il a accepté, il a dit oui. Face à cet homme qui était tout simple, ce prédicateur de circonstances, qui n'avait pas fait des études de théologie, qui n'avaient pas fréquenté une école biblique, qui n'avaient pas appris à parler, entre guillemets. Pas un orateur, un homme simple qui lui dit la vérité. Et cette vérité frappe son cœur et transforme sa vie. Et il devient fou de Dieu. Fou de Dieu. À 15 ans. Et des ados, ils sont là ce matin, c'est super, parce qu'ils n'ont pas pu avoir leur enseignement là-haut. Ils peuvent entendre aussi ce que je dis. Que tout jeune, on peut recevoir dans notre vie un appel particulier. Un appel pour servir Dieu, pour le servir. Pas des vieux comme moi, mais des jeunes. La règle, je veux rester jeune dans mon cœur. Hein. Vous en doutez. Mais tournez-vous vers Christ, vous les jeunes. Tournez-vous vers lui, acceptez-le dans votre vie. Honorez-le, glorifiez-le. Osez parfois parler. Ou osez parfois vous taire. Parce que c'est le changement de votre vie qui importe. Ce n'est pas les paroles que vous allez dire, prononcer, c'est ce que vous devenez. Ce que vous devenez pour lui. Nous sommes dans une époque terrible. Où la persécution risque de venir, bien plus qu'autrefois. Où il y a plein de choses qui peuvent nous être reprochées, à nous, chrétiens. Notre faiblesse, comme dit Jésus, si on vous donne un coup sur la joue droite, tendez la joue gauche. On partageait, Jean-Marie-Thérèse et moi, ce texte, on dit, mais c'est bah, quand même. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, d'accord, une fois, deux fois, mais pas troisième. Hein. Eh oui. Mais on a d'autres façons de répondre. Sans donner des coups. On peut faire reculer l'ennemi, vous savez, par notre attitude. Quand on est face à ceux qui nous attaquent, on peut avoir une attitude aussi combative, mais sans aller jusqu'au coup. On rappelle d'une scène, vous avez vu le film Ben-Hur ? Peut-être certains, oui. Oh, c'est vieux ce film. Hein. Ben-Hur partait comme esclave, il allait aux galères. Et sur le chemin, il rencontre Jésus. Et Jésus lui apporte de l'eau. On ne le voit pas, mais on sait que c'est lui. Et un soldat romain, un légionnaire, s'approche avec son bâton, un bâton pour pouvoir frapper à la fois Ben-Hur, mais aussi Jésus, parce qu'il donnait de l'eau aux galériens. On regarde, on voit une affaire de visage, de regard. Le regard de l'un et le regard de l'autre, mais on ne voit pas celui de Jésus. Et on voit l'homme qui est en face de là, qui recule, qui baisse la tête et qui s'en va dans son coin. Il n'a pas touché, il n'a pas dit un mot, il n'a pas eu un geste, mais l'adversaire a reculé. Je me souviens toujours de cette... Ça m'avait frappé de voir cette image, en somme, de la force, de la capacité de résister à l'adversaire sans taper, sans insulter, sans crier. Silence suffit pour que l'adversaire s'en aille. Parce qu'il y a la présence de Dieu qui est là. En nous, cela aussi est possible. Si nous sommes vraiment en Christ. Et lui, donc, notre ami, le sert, il est devenu, rendez-vous compte, à 19 ans, le plus jeune pasteur en Angleterre et à Londres. 19 ans. Oh là, c'est un peu trop, hein. trop jeune. Et quand Dieu appelle, quand c'est l'appel, oui. Quand c'est l'ambition, non. L'ambition, c'est humain, charnel, mais l'appel, c'est ce que Dieu veut de chacun et le fait avec toute sa puissance et son autorité, lui. Un exemple, mais durant tous les temps apostoliques, combien d'hommes et de femmes se sont levés ainsi, jeunes et moins jeunes. L'autre jour, on assistait à Dole à une conférence sur la Bible, sur les, pas mal, avec une exposition biblique, et le monsieur qui était là donnait des éléments de comment la Bible a pu se conserver. On parle des Vaudois, de Jean Valdo, qui était un marchand et qui commençait à s'intéresser à la parole de Dieu, et la parole de Dieu commençait à se diffuser à cette époque-là, en langage vulgaire. Ce qui était interdit, c'était le latin, la langue universelle pour parler de l'écriture. Ces Vaudois avaient à cœur de servir Dieu. Ils ont été persécutés à l'extrême. Ils se sont cachés dans les vallées des Alpes, du côté français, pas français, la Savoie à cette époque-là, qui était encore italienne. Et la parole de Dieu a été conservée, là. Ces hommes annonçaient la bonne nouvelle avec joie, avec force. Les pauvres de Lyon, un peu plus tôt. Jean Hus, qui était en Tchécoslovaquie, qui était un théologien, qui a été persécuté, qui a été brûlé, parce qu'il annonçait la bonne nouvelle, selon les Écritures. Les Ménonites, les Anabaptistes, John Wesley, qui allait de lieu en lieu et qui annonçait la bonne nouvelle, et qui était persécuté, poursuivi. William Carey, qui était un cordonnier et qui a été à la base de la mission anglaise pour la Chine. John Bunyan, qui a écrit ce livre merveilleux qui est Le Voyage du Pèlerin. On dit qu'il est diffusé presque pas autant que la Bible, mais dans le monde, on le connaît, on connaît ce texte. Le voyage du pèlerin. En prison, sans Bible, sans texte biblique, il a pu écrire ce livre qui est rempli de références. Lisez-le. C'est un vieux bouquin, mais il est impressionnant. Impressionnant. Georges Müller, cet homme qui désirait le salut des enfants. Sortir les enfants de leur misère, qui a créé ces orphelinats, qui était un homme de Dieu, qui aimait Dieu de tout son cœur, et qui croyait à la puissance de Dieu pour sa vie et pour la vie de ses enfants. Quand il parlait aux enfants, il disait, croyez en Dieu, vous voyez, on va prier, on n'a rien à manger, mais on va prier, on va bénir le repas. Rien dans les assiettes. Vous oseriez, vous ? Et on frappe à la porte. Il ouvre la porte, c'est le laitier. Vous savez, en Angleterre, on livre le lait avec des carrioles. Peut-être plus moins maintenant, mais autrefois. Et le lait allait de maison en maison, à des bouteilles ici, des flacons là. Et voilà que ce laitier dit, « Monsieur, ma charrette a perdu sa roue, elle est cassée. Je ne sais que faire de mon lait. Est-ce que vous en voulez ?» Oh. La prière est exaucée dans l'instant qui a suivi. La puissance de Dieu dans des vies simples. Tout cela, ces hommes, ces femmes ont vécu. Des femmes aussi qui ont osé partir. Cette petite bout de femme qui est partie en Chine, qui avait reçu un appel pour aller évangéliser la Chine, qui était une femme de ménage. Tout le monde se moquait d'elle. Une femme de ménage, aucune connaissance biblique. Qu'est-ce qu'elle va aller faire? Elle va aller enseigner l'écriture là-bas en Chine. Elle ne connaît même pas la langue. Cette femme, elle a économisé. Elle a pris un train pour aller de Londres en Chine. Un billet aller. Pas de retour. Et là, elle est allée. Et elle a fait un travail extraordinaire. Elle était pourtant parmi les villes personnes, parmi celles qui n'avaient aucune capacité, humainement parlant. Mais elle avait un appel. Elle avait reçu un appel particulier et elle l'a accompli. Combien voyons-nous aujourd'hui de personnes ainsi, qui sont inconnues, mais qui agissent avec tout l'amour que Dieu a mis dans leur vie. Alors nous, où nous en sommes? Que voulons-nous faire pour la gloire de Dieu? La folie de Dieu, et non pas la folie des hommes, va partir d'une façon, comment dire, inconséquente, mais avec, dans notre cœur, le désir profond de glorifier Dieu et de le servir. Vous êtes tous ici des serviteurs et des servantes de Dieu, pour ceux qui se sont engagés pleinement. Pour d'autres, ils ne sont pas encore engagés, mais Dieu va venir frapper à votre porte et venir toucher vos cœurs et vous faire aller plus loin. Quand nous avons commencé l'Église, il y a 29 ans, nous étions un petit nombre. Nous étions 8. Dieu a répondu. Dieu a parlé. Dieu a agi. Dieu a donné des hommes et des femmes qui avaient le désir de servir et d'honorer le Seigneur, qui avaient à cœur de témoigner, de vivre leur foi et de le manifester autour de nous. Et vous êtes, en somme, ceux qui ont été gagnés, qui ont été touchés. Et c'est à vous aussi maintenant votre rôle quand on parle du champ qui a défriché, de ce champ nouveau, cette parole qui a été donnée au début d'année par Robert concernant finalement les projets de l'Église. Il y a un palier, c'est vrai, mais ce palier, vous allez le traverser. Parce que tous les obstacles qui sont mis là, qui sont mis devant, ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont être arrachés. Un chemin va être dégagé pour aller à notre palier, pour monter à notre étage. Une autre croissance. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui reste stationnaire. Qui reste là, maintenant je suis arrivé, c'est super, maintenant je n'ai plus rien à craindre, je suis baptisé, j'ai donné ma vie à Christ. Et je vais comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Hein? Et Dieu nous dit, allez de l'avant. Manifestez la foi qu'on a reçue, les changements de vie qui se sont opérés en vous. Sommes-nous des sages ou nous sommes-nous des disciples? Un disciple, c'est celui qui fait comme son maître. Et quand nous regardons Jésus, tout au long de son ministère sur cette terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé, hein? Il est allé de lieu en lieu. Vous n'allez pas faire tous des missionnaires, bien sûr. Je me rappelle toujours le papa Burkhard, un vieux missionnaire qui a été au Centrafrique et au Tchad, qui disait, vous pouvez avoir un appel pour partir, mais aussi un appel pour rester. Parce que pour ceux qui partent, ils ont besoin du soutien de ceux qui restent. Soutien dans la prière, soutien dans les moyens financiers, soutien dans tout cet aspect-là. Notre vie est un don pour Dieu et un don pour les hommes. Jésus, dans Luc, au chapitre 17, a dit quelque chose d'important. Luc, chapitre 17, versets 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs. Approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper. Sains-toi et me sers jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qu'il devait, lui avait été ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. C'est dur. Quand j'ai lu pour la première fois cette parole, j'ai dit, mais c'est pas possible, on avait un droit à une récompense. Mais la récompense n'est pas sur terre, c'est au ciel. Si nous faisons ce que nous devons faire, qu'avons-nous à attendre de récompense? Dieu a choisi les choses viles de ce monde pour le servir, afin qu'on n'en tire pas orgueil et vanité. Et qu'au contraire, on soit dans le contentement parce que finalement, ce qui est important, c'est que Dieu soit honoré dans nos vies. Dans Romains, au chapitre 12, le passage qui est important pour nous encore aujourd'hui, on le lit souvent ce passage. Paul a exhorté les Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un beau programme. Mieux que tous les programmes politiques qu'on peut entendre aujourd'hui. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mais vivons notre foi dans ce siècle présent. Jésus a dit, vous êtes hors du monde et vous êtes dans le monde. Votre vie n'est pas en conformité avec celle du monde. Elle est en conformité avec la parole de Dieu, ce qu'elle nous enseigne, ce qu'elle nous dit jour après jour. Notre espoir est en Jésus-Christ. C'est lui qui touche nos vies, qui nous garde, qui nous protège. Comme dit ce chant, il est devant, derrière, en haut, en bas. Il est avec nous, toujours avec nous. N'en doutons pas. Et si dans des vies, nos frères ici, quelques-uns d'entre nous sont découragés, abattus, croyez que Dieu vous aime et vous entoure. Et que d'autres ont peut-être souffert des choses semblables à vous, mais ont vaincu le monde, ont triomphé du malin et ont vécu des vies, même s'il y a eu des persécutions et des souffrances, ils sont dans la vérité. Et cette vérité, elle nous affranchit. Si le Christ vous affranchit, vous êtes réellement libre. Que cette liberté soit en vous, frères et sœurs. Et ne regardez pas ceux qui pensent être au-dessus de vous, hein, qui vous méprise et qui vous rejette, mais sachez que Dieu vous aime et va vous donner le meilleur. Nous prions. Merci pour ce matin. Merci parce que tu es ce Dieu qui nous apporte au-delà de ce qu'on peut voir de nos yeux propres. Merci parce que tu veux donner à chacun ce matin une nouvelle espérance, un nouvel élan, des nouvelles forces pour aller plus loin. Les obstacles, Seigneur, tu les enlèves. Et tu nous aides, nous aussi, à les enlever. Ne soyons pas comme celui qui voit la paille dans l'œil du voisin, alors qu'il en a une poutre dans le sien. Que nous puissions être ceux qui sont conscients de leur faiblesse, mais qui savent qu'en toi, Seigneur, dans cette faiblesse, ta puissance peut s'accomplir. Te remettons cette journée encore pour chacun d'entre nous. Te remettons nos vies, ce que nous pourrons faire dans la semaine, ce que tu nous permettras d'accomplir, qui nous surprendra. Tu es ce Dieu puissant. Tu es ce Dieu puissant. Ce Dieu que j'aime et dont je suis aimé. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.